Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamo. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Bien, aujourd'hui nous allons parler de l'impact environnemental de la construction du port en eau profonde de Banana. Professeur Serge Mpangu, géographe et hydrologue, est notre invité. Professeur, bonjour. Bonjour professeur.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette
émission.
Voilà, bienvenue dans cette émission Okapi Service, qui s'intéresse aujourd'hui à l'impact environnemental de la construction du port en eau profonde des Banana, des questions et préoccupations. Par rapport à cette thématique, le standard est déjà ouvert, composé le 099-706-9941. Vente des produits périmés, des produits impropres à la consommation, comment protéger les consommateurs, ce sera notre deuxième sujet du jour à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission de la vie au quotidien, il suffit de composer le 099-706-9941 pour appeler, vous inscrire et nous allons vous rappeler pour participer, pour poser vos questions ou témoigner au cours de cette émission. Paul Badianyama à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Au capé.
La RDC sera dotée de son premier port en eau profonde à Banana dans les prochains mois. La construction de ces ports permettra au pays d'avoir une porte de sortie maritime sur son littoral. Notons cependant que ce projet sera réalisé dans une zone protégée où se trouve le parc marin des mangroves, classé comme une zone humide d'importance internationale depuis 1996 selon le groupe de travail Climat Red. Quel est l'impact environnemental? Quel sera l'impact environnemental à la suite de la construction de ce port en eau profonde de Banana et que faire pour réduire l'empreinte carbone des activités de ce port sur les ressources halieutiques de l'océan Atlantique? Eh bien, nous allons en savoir plus avec notre invité, professeur Serge Mpangu, géographe et hydrologue. Professeur, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette émission. Alors, nous parlons de la construction du port en eau profonde de Banana. Quel pourra être l'impact environnemental de la construction de ce port?
Oui, bonjour aux auditeurs de la radio de la paix. Bonjour à Jordi et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Oui. Le port en eau profonde, d'abord pour la petite histoire, je crois que, je ne sais pas si vous êtes un peu curieux, nous avons publié il y a deux, trois ans ici, justement les contraintes, la physiographie de l'emplacement du port et tout ce qu'il y avait comme contraintes hydrodynamiques. Maintenant, vous parlez de l'impact environnemental sur le parc de mangroves. À ma connaissance, et bien c'est selon la conclusion de nos études, le port serait plus a été déplacé au lieu que ce soit au large de la l'île de Boulambemba, ce sera dans la rade des bananas, c'est-à-dire dans l'espace compris entre l'île des pêcheurs et la presqu'île des bananas. C'est ce qu'on appelle la rade des bananas. Et là-bas, il y a déjà de petits ports, comme le port de la CRM, il y a le port de STP, et il y a le port des marins, c'est-à-dire la base navale. Mm-hmm. Et il y a également le petit quai de Saussure. Donc c'est un lieu que je connais très bien. D'emblée, d'abord, l'impact. L'impact sera sur la surface comprise entre le parc de mangroves proprement dit et l'île des pêcheurs. Parce que l'île des pêcheurs doit en principe faire partie, va recevoir une partie des installations du port. Et pour ceux qui connaissent Banana, donc c'est au fait un endroit qui existe déjà. Cette rade-là, c'est le troisième bras du fleuve qui côtoie presque, qui traverse tous les parcs de mangroves, qui est un peu plus à l'ouest, et donc qui ressort par la presqu'île des bananas. Et alors, là sera implanté le port. Mais alors, quel sera le vrai impact? Ce qu'est le vrai impact, c'est comment accéder ou sortir de ce port. Ce sera surtout cet impact-là. Et l'impact, parce que dans l'estuaire, nous avons des espèces, notamment des animaux, des mammifères, plutôt comme des lamantins, qu'on ne voit pas tous les jours, hein, ce que d'aucuns appellent sirène, mamiwata, tout ça. Les lamantins, il y en a peu dans cette zone-là. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on déplorait déjà leur contamination par les huiles, les déchets des huiles, le reste des déchets des huiles de Perrenco. Ça a créé même un petit problème au Parlement, je crois que vous vous en souvenez. Mmh. Alors, le principal impact sera ce que, une partie de ces mangroves-là seront détruites sur l'île des pêcheurs, donc l'île qui est en face de la cité des bananas. Et là, c'est rien à faire, et tout ça va changer, c'est-à-dire que toute l'organisation environnementale va changer, parce que on va remplacer les mangroves par des constructions, c'est-à-dire par des entrepôts, par des quais,
il est prévu la construction d'un quai d'au moins 600 mètres.
Exact, un quai de 600 mètres, vous voyez, 600 mètres, donc si on doit déloger, si on le fait essentiellement sur la rive droite du bras du fleuve, ça signifie qu'on va déloger tous les ports qui se trouvent tout le long, c'est-à-dire au CPT, la base navale et le quai de Saussure. 600 mètres, ça pourra suffire. Mais le mouvement n'est pas tout, parce que la rade n'est pas très profonde, il faut le dire. Et c'est au moins, j'ai fait la bathymétrie sur cette rade-là, les profondeurs ne vont pas au-delà de 5-6 mètres. Donc, ils seront obligés, d'abord, de faire une sorte de dragage de la rade. Ensuite, on va construire sûrement, on va renforcer la digue qui prolonge la presqu'île de Banana. Je crois que vous avez déjà été à Banana. Vous voyez qu'il y a un amas de pierres qui termine le terrain naturel dans l'océan, parce que il faudra empêcher que la houle vienne perturber, c'est-à-dire les montées de l'eau, les descentes, les vents, tout ça, pour qu'il n'y ait pas trop de turbulences dans le port. Et donc, on sera obligé sûrement de créer et de renforcer la digue qui sépare disons, qui donne sur l'océan Atlantique.
Oui, professeur Serge Pang, donc si on comprend bien...
600 mètres. Oui.
Oui, professeur, si on comprend bien, une zone importante du parc marin des mangroves sera affectée par ce projet. Une bonne partie du parc.
Oui, mais bon, mais oui, Joby, mais que voulez-vous, comme on dit en français, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Donc, une bonne partie, mais ce parc peut être sauvegardé. N'exagérons rien, parce que la grande partie du parc est en aval du port, est en amont plutôt du port. Le port se trouve juste à l'estuaire, donc à la sortie de l'espace où il y a les mangroves. Donc c'est juste, j'ai dit bien, si il y a un espace qui sera le plus impacté, c'est celui qui se trouve en face de la saucière, donc ce qu'on appelle l'île des pêcheurs. Mais le reste, c'est quand même loin, et le fleuve Congo a trois sorties sur le fleuve. C'est pourquoi on l'appelle estuaire. Ainsi, donc si on peut protéger la deuxième et la première, la plus grande sortie qui est celle de Boulambemba, c'est-à-dire qu'on appelle là où il y a la limite entre l'Angola et la RDC, donc je pense que c'est on peut protéger cette partie-là et isoler l'île des pêcheurs. Mais en le faisant, je ne vois pas comment ça ne pourra pas avoir des impacts sur la vie marine là-bas. C'est presque inévitable.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'impact environnemental de la construction du port. Nos profondes de Banana, des questions et préoccupations. Appelez au 081-890-63-94. Donc, si on comprend bien, professeur, c'est beaucoup plus, comme vous l'avez dit, l'île des pêcheurs qui sera plus affectée par cela.
Oui, oui. C'est tout ce qui est lié, donc toute la biosphère qui est autour ou qui est liée à l'île des pêcheurs, c'est elle qui sera perturbée parce que c'est la seule île qui donne sur le port, sur la rade de Banana. Donc le reste, je crois que on prendra des mesures pour protéger les autres zones du parc des mangroves.
Et ces pêcheurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Non, sur l'île des pêcheurs, il n'y a pas de pêcheurs. C'est un nom. C'est comme l'île de l'Angile, en face de ce que nous avons appelé cité du fleuve, à tout ça. L'île des pêcheurs, c'est l'île, disons que c'est beaucoup fréquenté aussi par les pêcheurs, mais c'est en face de la saucière, du quai de la saucière, c'est en face du quai de l'OCPT, disons que c'est en face de Banana, quoi. Donc c'est donc l'île qui limite la terre ferme avec les mangroves. C'est la première île qui donne sur Banana. C'est ça qu'on appelle l'île des pêcheurs. Et l'île des pêcheurs est séparée des autres par un autre bras du fleuve. Donc c'est une zone qu'on peut facilement isoler aussi. Mais bon... Mais vous voyez qu'avec tous les trafics qu'il y aura, des paquebots qui vont rentrer là-bas et tout, bon, la perturbation dans cet espace-là est inévitable. Donc, on ne peut pas, comme je dis, faire autrement. Mais le port à eau profonde est d'une importance très capitale pour le pays, comme vous le savez.
Oui, sur le plan économique, bien sûr. On va accueillir Martin de Kinshasa.
Oui, évidemment.
Oui, Martin est à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour à la Radio de la Paix. Bonjour à vous également et bonjour à l'invité.
Bienvenue, Martin. Nous parlons de l'impact environnemental du port en eau profonde de Banana. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet?
Oui, c'est une bonne chose, mais il semble qu'il y a des impacts environnementaux importants qui, sur le plan écologique, vont entamer la posture du Congo comme étant un pays solution sur la séquestration du carbone et sur la séquestration aussi du méthane. D'abord, il faut dire que premièrement, la construction du port à ce niveau-là nécessite l'utilisation des milliers de tonnes de ciment qui va aussi conduire à l'émission d'une certaine pollution. Mais le plus grave, c'est la perturbation de la biodiversité. Et comme vous le savez, cette zone-là a été classée depuis un certain nombre d'années comme étant une zone protégée parce qu'il se trouve dans les mangroves. Et les mangroves aujourd'hui sont recherchées partout dans le monde entier pour la séquestration de carbone. Il y a même des projets dans le cadre de la nouvelle économie du climat de restauration des mangroves. Et donc, l'avoir avec nous et les détruire comme ça nous semble un peu préoccupant. Et donc, il y a une catégorie de poissons qui sont habitués à vivre dans cette zone-là. Et il faut aussi se rappeler que c'est à l'embouchure, hein, là où se rencontre notre fleuve avec l'océan. Et donc, cette biodiversité maritime va connaître un peu de perturbations, ce qui aura un impact sur le plan environnemental. Et donc, à notre avis, je ne sais pas si à ce jour on dispose les études fiables dans lesquelles les Congolais ont eu à contribuer pour évaluer ces impacts-là. Jusque-là, ma connaissance, je n'en ai pas connaissance, mais on est en train de nous diriger vers la construction. Je ne sais pas comment on prend en charge ces impacts-là.
Bien, merci Martin de Kinshasa. Professeur Serge, est-ce qu'il y a eu des études au préalable pour évaluer les impacts environnementaux de la construction des supports en eau profonde des bananes?
Oui, je dis à notre ami, je le salue, mais bon, il dit qu'à son avis, il est bon, il n'a qu'à entrer sur le net et il tape estuaire. Parce que quand il y a d'abord un petit correctif, hein. Le fleuve Congo n'a pas d'embouchure. Parce que embouchure, ça signifie que, parce que quand vous dites ça pour quelqu'un qui nous suit de loin, il croirait que le fleuve vient en bras unique sur l'océan, ce qui augmenterait le danger, justement, le risque. Parce que là, la généralisation du risque serait impitoyable. Mais le fleuve a bien un estuaire. Un estuaire, c'est-à-dire qu'il a plusieurs bras qui traverse le parc et dont un sera exploité. Il faut être très clair là-dessus. C'est-à-dire que si vous comptez Boulambemba à la rade de Banamna, ça vous fait 14 kilomètres. Hein. Ce n'est pas juste à côté. Hein. C'est très loin. Donc, or, déjà notre littoral n'en a que 44. Donc, c'est presque le tiers de la distance de notre littoral. Et il faut voir, on a publié, moi je connais 4 ou 5 études, même plus. D'abord, il faut repartir à l'époque coloniale. Il y a Magdalen de l'Académie royale de Belgique qui a fait une série de publications sur cette zone-là. Donc, si monsieur veut avoir des publications, il peut remonter. Il y en a qui remontent même de très très loin, donc de 1931, 1915 déjà. Et il y a De Vreuil qui a fait une monographie sur la zone divagante, et donc il a parlé aussi de cette zone, la zone divagante, c'est-à-dire en aval de Beaumont. De Vreuil, c'est celui qui a le plus étudié le réseau navigable du fleuve Congo et de ses affluents. Et il a publié des annuaires jusqu'en 1961. Donc, c'est des documents qui existent et vous pouvez les avoir. La RBF en a même en soft. Alors, il y a des études récentes. Moi, bon, il n'est pas bon de parler de soi-même d'abord. Je citerai Bruno Mouyaya qui a fait une monographie, une étude par télédétection sur l'évolution justement du parc de mangroves à Moanda. Il a vu que il n'y a pas que le port. Déjà, la population était en train de couper les mangroves pour besoin de boîtes de chauffe, pour tout ça. Et pourtant, il y a du gaz qu'on abîme là-bas. Alors, c'est pourquoi je dis que les études, il y en a. Moi-même, j'ai publié un article sur les contraintes hydrodynamiques de l'estuaire du fleuve Congo en vue de l'implantation du port en eau profonde. C'est pourquoi je vous dis que je suis parmi les gens qui ont étudié de manière assez profonde quand même quelles sont
alors,
les contraintes qui s'imposeraient au port.
Professeur, ouais. On peut dire que...
Donc les études existent et il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Alors selon Martin, il y aura, ça c'est sans faute, il y aura des perturbations de la diversité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Ça je le dis, mais c'est je vous ai dit aujourd'hui que les questions de développement souvent sont incompatibles avec certaines réalités écologiques, n'est-ce pas? Mais là, il n'est pas possible que nous puissions ne pas parler de ça, mais je pense que c'est que ce port-là apporte à la RDC et les dégâts que ça pourra créer sur le parc de mangrove, on peut trouver un juste milieu pour atténuer, pas éradiquer, mais atténuer de manière significative
Bien, on va accueillir un autre auditeur. Oui, professeur.
Oui, je vous écoute.
Bien, on va accueillir bienvenue. On va accueillir bienvenue depuis Kikwit. Nous parlons aujourd'hui de l'impact environnemental de la construction du port en eau profonde des Banana. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation par rapport à ce sujet, je crois. Le Congo, notre pays, a vocation aussi à se développer. La construction de ces grands ports en eau profonde, c'est aussi une infrastructure nécessaire pour contribuer au développement de notre pays. Cependant, les impératifs environnementaux s'imposent aussi à l'ère où nous sommes. Je crois, avec tout ce que ces projets de construction des ports en eau profonde peuvent apporter comme dividende, il serait souhaitable que une partie des revenus qui seront issus de ces projets soit aussi affectée dans des projets à impact environnemental pour que on ne puisse pas avoir seulement cette infrastructure, mais aussi qu'on tienne compte de la protection de l'environnement, surtout de la population environnante. Comme vous l'avez si bien souligné, ce site est classifié parmi les sites à protection internationale. On a détruit quelques éléments de cet écosystème. Il serait souhaitable qu'on puisse tenir aussi compte de certains impératifs sur la protection de l'environnement. Ça va être mieux. Donc, concilier les deux piliers, le développement des infrastructures aussi, la protection de l'environnement.
Bien, merci. Bienvenue depuis Kikwit. Professeur, votre réaction?
Oui, bon, exactement, ce que dit Bienvenue est compréhensible. C'est pourquoi je dis que, bien sûr que la perturbation sera très forte, parce que un quai de 600 mètres va demander énormément, comme a dit le précédent intervenant, va avoir beaucoup de perturbations dans l'écologie, les écosystèmes marins de la rade de Banana. Mais je dis qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire un projet sans prévoir le plan de réhabilitation. C'est-à-dire que ce projet-là n'est pas un projet des gangsters, c'est un État qui fait ce projet. Il va prévoir, évidemment, il va calculer les impacts, nous n'en sommes pas encore, mais en tout cas, si c'est dépendant de moi, je sais où aller chercher, et on protégerait les deux bras du fleuve qui ne donnent pas sur Banana, parce qu'ils sont en pleine mer, là-bas, ils sortent directement sur l'Atlantique, et nous pourrons orienter tout ce qu'il y a sauvé, tout ce qu'il y a comme biodiversité dans ces deux bras. Et d'ailleurs, c'est de loin, en termes de surface, de loin supérieur à la place qu'on va, à la surface qu'on va utiliser. Donc, moi, je trouve que si on avait mis le port à Boulambemba, comme c'était le cas avant, moi, je l'avais déjà dit dans mon article que ce serait beaucoup trop dangereux. Et d'ailleurs, la zone elle-même est très dangereuse parce qu'il y a, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un canyon, c'est-à-dire une fosse géologique océanique qui déchire et qui rentre dans le fleuve sur 44 kilomètres environ. Donc, cette zone-là est très perturbée et les courants de turbidité très forts. Et ensuite, pour la séquestration du carbone, avec ce courant de turbidité, c'est ce qui consiste au fait, c'est notre chance, hein, c'est-à-dire que ce courant-là fait comme s'il aspire tout ce qui vient du bassin du Congo rapidement dans l'océan à cause de la présence de cette fosse géologique. Elle varie de 400 à 600 mètres de profondeur, hein, donc c'est pas un jeu d'enfant, c'est vraiment un canyon au sens propre du terme. Et donc, au-delà de cela, nous disons que le port, oui, on le fait, mais je dis que les contraintes qui sont celles du port, il y aura une route, vous savez, en principe qui doit passer par le grand barrage d'Inga, au-dessus du grand barrage d'Inga, qui doit venir rejoindre la nationale numéro 1 vers Kimpese, par là. Et donc, c'est un projet qui date de longtemps. Mais pour l'instant, pour moi, le port est faisable à condition que son début soit conditionné par une étude sérieuse et minutieuse des impacts environnementaux, qu'on recense les espèces les plus vulnérables, parce que le parc, il est plus grand que l'espace qu'on va utiliser. L'espace qu'on va utiliser, il est juste externe. C'est d'ailleurs la chance, parce qu'il donne sur le continent, il ne donne pas sur le parc. Donc, le parc, on limite seulement l'espace de l'île des pêcheurs, on se précise bien l'endroit, et on protège les deux autres bras du fleuve, et je pense qu'on peut sauver l'essentiel de ce qu'on pouvait détruire dans le parc de mangroves. Parce que, n'oubliez pas, les mangroves, c'est jusqu'au-delà du parc, et ça continue, c'est presque jusqu'à la porte des Boma, il y a des mangroves. Mais, constater que, suite à la pauvreté, la population des Mwanda détruit déjà les mangroves. Ça, ce n'est pas les parcs, ce n'est pas le port. Ils détruisent les mangroves pour faire de la braise, pour alors qu'il y a du gaz à côté. C'est-à-dire que c'est des études qu'on devra intégrer à une réalité sociologique et écologique pour essayer de trouver le bon équilibre pour que ce port ne nous apporte pas plus de problèmes qu'il nous apporte de solutions.
Bien.
Je pense que le port est bienvenu et il est faisable.
Il est faisable. Quel sera l'impact environnemental de la construction du port en eau profonde des Bananas? Vous voulez participer à cette émission de La Vie au quotidien? Mesdames et messieurs, composez le 099-706-99-41. 099-706-99-41. Bien, on va accueillir Bertin de Kinshasa. Bonjour Bertin.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'impact environnemental de la construction du port de Banana?
Merci beaucoup. La construction de ce port aura des impacts environnementaux très significatifs, notamment dans la perturbation d'abord des habitats liés aux mangroves, qui est un écosystème particulier et très sensible, déjà menacé. Je viens d'entendre ce que le professeur a dit. Et donc, il y aurait vraiment la perturbation des conditions de vie de toute la biodiversité qui vit dans ces mangroves, notamment celles qui se déplacent pour venir y pondre comme les tortilles. Et puis, ces mouvements-là seront partiellement perturbés. mais la construction pourrait aussi avoir des impacts sur la déforestation. La déforestation parce qu'il y aura des routes qui seront construites et pendant ces cheminements, on va déforester de grands espaces. Et vous savez très bien que la déforestation est liée au changement climatique parce que ces arbres coupés étaient auparavant depuis des séquestrations de carbone. Mais à côté de cela, il y a aussi un autre impact aussi grand, c'est la pollution. La pollution dans les trois dimensions ou les trois sphères de la Terre. Il y aura la pollution de l'air, il y aura la pollution de l'eau et même la pollution du sol à côté du port. La pollution de l'air parce que les activités qui se passent au port, on utilise généralement les hydrocarbures, d'abord en commençant par les bateaux qui viendront à tout moment. Donc il y aura la pollution de l'air en amont et en aval même. Et cette pollution de l'air pourrait poser des problèmes au niveau de la population environnante, mais aussi au niveau de la biodiversité qui est tout autour. Il y aura une question de la pollution de l'eau, parce que comme vous le savez, il y a toujours des déchets liquides qui proviennent de l'usage des hydrocarbures et d'autres produits d'entretien et autres activités liées à ces ports. Ça pourrait être déversé dans ces eaux qui vont continuer à stagner tout autour de ce mangrove et créer encore des complications pour la biodiversité qui se trouve et pourquoi pas pour la population qui sera là. Et là, bien sûr, le sol n'est pas épargné. Mais il y a une autre forme de pollution que je voudrais annoncer, c'est en fait la pollution sonore. Vous savez, ce sont des engins, des grands engins qui seront utilisés sur place et pendant la construction et après la construction, quand les bateaux vont commencer à coûter certainement, il y aura beaucoup de bruit et cette biodiversité va se retrouver à côté des grands bruits. Et ça pourrait vraiment avoir des perturbations sur le plan de cet écosystème lorsque nous sommes dans la perspective de penser à sa protection. Mais pour créer un équilibre, vous savez, la protection de l'environnement ou les impacts environnementaux, ce n'est qu'une filière dans la vision de développement durable. Parce que tout ce que nous faisons actuellement, nous poursuivons les objectifs de développement durable. Or, l'environnement fait partie d'autres piliers, notamment l'économie, les sociales et même la culture. Ça veut dire que lorsque nous évaluons aussi les impacts socio-économiques et même culturels de ce projet, et que nous pensons que d'une certaine manière, ça peut participer à l'équilibre économique de la région où le port sera installé, ou du pays en général, pourquoi pas mettre en place des mécanismes d'atténuation, de mitigation ou de bonification de ces impacts qui vont être ici justement pour créer un équilibre. Parce que j'ai entendu le prof dire que déjà ce mangrove autour de lequel nous réfléchissons, ont déjà été menacés et sont en train d'être menacés par la population
locale.
Non pas parce qu'ils veulent les détruire, justement, mais parce qu'ils ont besoin du bois pour préparer et puis pour subvenir aux besoins les plus primaires. Et donc, lorsque, sur le plan socio-économique, les projets pourraient répondre à certaines autres préoccupations de la société, ça sera pour nous aussi un privilège, justement. Pour nous, je ne parle pas que nous sommes le peuple congolais, ça sera pour ceux qui travaillent dans le projet de mettre en place des mécanismes pour minimiser l'impact environnemental et créer un circuit qui va réduire et les impacts environnementaux et les pressions économiques et sociales pour promouvoir l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et
merci.
Donc pour promouvoir le développement durable.
D'accord, merci Bertin de Kinshasa. Professeur Serge Pangou, Bertin a dit qu'il y aura certainement des impacts environnementaux. Il a particulièrement ciblé la pollution, toutes sortes de pollutions. Et il dit qu'il est important de mettre en place des mécanismes d'atténuation et de mitigation.
Oui, mais exactement, mais je ne peux que le dire déjà. Je dis que c'est bien. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un projet futuriste. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'immédiat, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce niveau, on demanderait que le débat soit un peu plus élevé. Hein. Parce que quoi? Si vous parlez port en eau profonde, la pollution sonore, elle est inévitable. N'est-ce pas? La perturbation environnementale de profondeur, par exemple, les excavations, mais quand on met des dragues pour déjà vider la rade pour qu'elle soit assez profonde pour recevoir des paquebots, mais on ne peut que perturber ces milieux-là. Ça, je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas contre cela. Mais je dis que le projet va avoir un plan d'impact, de gestion, de réhabilitation et de suivi environnemental. Et ce plan a un coût qui sera inclus dans le coût du projet général de l'implantation du port. C'est ce qu'on doit comprendre. Et donc, quand je dis que, par exemple, il y a la population qui utilise déjà les mangroves pour faire du bois de chauffe, mais est-ce que vous savez qu'à Mwanda Jordi, la Perenco brûle le gaz de tous les jours? De tous les jours, il les brûle comme ça, des torches de gaz, si vous allez même maintenant, c'est jour et nuit. Or, si on utilise ces gaz-là pour faire la, pour alimenter les ménages en gaz ou en électricité, est-ce qu'on aura encore besoin de mangroves pour faire des makala? On n'en aura pas besoin. Et donc, vous comprenez que si dans ce projet, on intègre tous ces aspects-là, et d'ailleurs, le port lui-même aura besoin de beaucoup d'énergie. Et les gaz qu'on brûle là, c'est une partie d'énergie. Et ça fait partie de l'écosystème de Mwanda qui reçoit le port. Non, le pétrole qui est en dessous, on l'exploite déjà depuis longtemps. Mmh. Et toute la biodiversité qui est là. Je vous ai dit que les lamantins ont été atteints il n'y a pas longtemps. On a envoyé toute une équipe de spécialistes qui sont allés soigner les lamantins parce qu'ils avaient été contaminés par les hydrocarbures de la Perenco rejetés sans ménage dans le même espace. Donc ce n'est pas nouveau ça. Mmh. C'était déjà dans le parc qu'ils font ça. Et donc, maintenant, ces problèmes-là vont s'amplifier parce que la taille du port en eau profonde va dépasser la taille de tous les petits quais qu'il y a maintenant là-bas. Et la fréquentation, oui. Comme a dit notre ami tout à l'heure, la fréquentation, c'est-à-dire la fréquence d'utilisation, le nettoyage des navires, de tout ce qu'on va faire, ça va dégager beaucoup d'hydrocarbures qui
professeur,
seront finalement déversés.
Professeur, professeur, oui. Combien de navires pourront faire le mouillage à ce port?
Ah bon, si bon, je sais pas, je n'ai pas vu les designs définitifs, mais bon, vous prendrez comme un grand port, hein, comme je ne dirais pas inverse, mais pointe noire par exemple, donc peut-être 5, 6, 7, 8, 9 à la fois, 10, pourquoi pas 20. Donc c'est vraiment un espace sérieux qu'on a aménagé. Parce que tel que nous on l'a proposé, c'était sur 5 000 mètres carrés. Donc c'est qu'est-ce que je dis, 500 000 mètres carrés. Donc ça serait immense, c'est un grand port.
Oui, c'est un grand port.
Les gens doivent savoir que la sortie c'est par la ville de Mwanda, ce n'est pas dans le mangrove. Parce qu'il y en a qui parlent du site. Je comprends qu'ils n'ont jamais été là, donc ils ne réalisent pas la physiographie du site. C'est-à-dire qu'à gauche, vers l'ouest, il y a la possibilité de sortir du port sans passer par le parc des mangroves, qui est lui plus à l'ouest, parce que lui, au fait, encastré entre la rade et le fleuve Congo. C'est là que se trouve la grande surface des mangroves. Mmh. Et bien au-delà, je dis bien au-delà, sur 30-40 kilomètres, il n'y a que des mangroves là-bas. Le port, lui, il est juste à l'estuaire, donc au dernier bras, celui qui donne, là où il y a déjà la base navale de Banana, je vous ai dit, là où il y a déjà Perenco, là où il y a déjà Saucir, là où il y a déjà OCPT, il y a déjà des petits quais là-bas qui fonctionnent et les bateaux y arrivent déjà. C'est-à-dire que cette pollution-là ne fera que s'amplifier. Maintenant, il faut un plan, je dis, de mitigation environnementale qui sera, qui doit être conséquent pour protéger le port. Mmh. Mais ce plan peut être fait et le port, je pense, générera assez de moyens pour protéger le parc. Mais
oui, c'est ce que bienvenue des Kikuit. Professeur. Professeur Serge, bienvenue. Les Kikwit a proposé cela. Il dit que les recettes qui seront générées, que va générer l'exploitation du port, une partie peut être affectée au projet à la protection de l'environnement.
Oui, mais parce que même l'ami qui vient de parler tout à l'heure à notre dernier éditeur, quand il parle de plan de gestion,
mitigation.
Dans le plan de gestion, on prévoit dans le projet, parce que le développement durable, c'est cela, c'est-à-dire c'est rechercher le plus possible l'équilibre entre l'environnement, les investissements, la société et tous les écosystèmes qui les entourent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non, ne faites pas le port parce qu'on va sécréter le carbone, parce qu'on va protéger la biodiversité. En attendant, on ne sait pas dire, parce que vous avez entendu, lui m'a dit qu'ils ne peuvent pas empêcher la population parce qu'elle a besoin d'énergie. Et donc, il faut intégrer tous ces problèmes-là dans un plan de gestion environnementale pour que ces impacts soient atténués le plus possible et pour que le port fonctionne de manière durable, sans faire trop de dégâts, mais apporter plus de bénéfices et de succès. Voilà un peu la vérité.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Quel sera l'impact environnemental de la construction du port en eau profonde des Bananas? Vous voulez participer à cette émission, composez le 099-706-9941. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour à tous les amis fidèles de la radio de la paix. Bonjour à notre invité.
On vous écoute, Roger.
Monsieur le député, je vais demander à notre invité, malgré que au début de chaque projet, il y a toujours des études qui sont toujours réalisées. Moi, je me demande pourquoi on est arrivé à ce niveau-là avant de réaliser ce projet-là. Il n'y avait pas eu des études qui ont été réalisées. Aujourd'hui, si on arrive quand même à faire un peu l'effort à notre profonde de banane, mais pas avec les changements climatiques que nous subissons ces derniers temps. Je ne pense pas avec les années, ça sera encore. Ça pourra créer au moins quelque chose. Parce que on a vu dernièrement avec les blocs pétroliers, les fois qu'on a découvert quelques blocs pétroliers, avec les temps, il y a eu les gens de la société civile qui se sont soulevés sur lui. Parmi les blocs pétroliers qu'on avait sollicités, il y avait quand même les autres parmi les guerres protégées. Moi, je ne pense pas que. À un certain moment, ça ne pouvait pas créer au moins quelque chose qui pourrait quand même affecter la population vis-à-vis des autres.
Bien, merci Roger. Professeur Serge Mpango.
Oui, bon, son intervention était un peu inaudible, vous voyez, je suis un peu très très loin de vous là.
Voilà, il est revenu sur les études, les études, tout ça. Sur les...
Oui, mais évidemment, justement, je vous dis merci. Merci. C'est ce que j'ai moi aussi saisi comme essentiel de la question. Mais lorsqu'on parle de construction, je vous dis que nous tous là, quand on réfléchissait sur le sujet, c'est qu'il existe déjà un office qui est monté depuis longtemps pour gérer la construction de ce port-là, qu'on appelle l'OBK, n'est-ce pas? Et donc, les études n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a des études de faisabilité, sûrement. Si on vous dit qu'on va commencer maintenant, ça signifie qu'on est en train de terminer les études de faisabilité. Parce qu'il y a des études préliminaires, parmi lesquelles nous vous avons cité quelques-unes. Mais il y a aussi des études tout à fait scientifiques qui n'ont rien à voir avec, avec le port, mais qui regarde le parc et la préservation de l'espace dont nous parlons, c'est-à-dire de l'estuaire du fleuve Congo. Aujourd'hui, comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse commencer à construire un port de si grande importance sans études? C'est même pas pensable. Ça, c'est...
Allô, professeur? Vous êtes là? Bon, je pense qu'on a perdu le professeur Serge Pingou. Il est géographe et hydrologue. On va tenter de Tati est en train de tenter de le rejoindre pour poursuivre cet entretien sur l'impact environnemental ou les impacts environnementaux de la construction du port en eau profonde de Banana. Des questions et préoccupations, eh bien, le standard est ouvert. Composez le 099-706-9941. Nous avons dit tout à l'heure que la RDC va être doté de son premier port en eau profonde à Banana dans les prochains mois. Et la construction de ce port permettra au pays d'avoir une porte de sortie maritime sur son littoral. Alors, professeur, vous êtes là? Professeur Serge.
Oui, je suis là.
D'accord. Vous étiez en train de dire que, évidemment, avant de lancer un tel projet, il faut toujours qu'il y ait des études au préalable.
Oui, les études sont déjà très, très avancées. Mmh. Et d'ailleurs, si on attend encore, parce que le président, il a quand même changé un peu la façon de faire, ce que je félicite. Lui, au moins, quand il inaugure, et puis la construction le suit. Mais si on traîne, parce que cette infrastructure assure aussi une partie de notre indépendance, hein, faut pas oublier. Mmh. Donc, les études ont commencé il y a longtemps, mais cette fois-ci, il s'agit de finaliser les études de faisabilité. Or, dans les études de faisabilité, les études les plus fouillées ont toujours été les études techniques, c'est-à-dire les études d'implantation, mais aussi les études de l'impact environnemental. C'est-à-dire que cette étude-là est cruciale et aucun projet ne peut commencer sans
cette étude.
Parce que ça n'aurait pas de sens. Surtout que nous sommes dans une zone protégée. Ça, c'est trivial. Donc, l'étude est bel et bien là. Mmh. Elle est en train même d'être peaufinée. Moi, je me rappelle avoir participé à un atelier où on a présenté un draft sur lequel la majorité des participants ont formulé l'intention que cette étude soit approfondie et puis toutes les actions prévues dans le cadre de cette étude soient évaluées et soient bancables pour qu'on sache exactement en termes d'intervention qu'est-ce qu'il faut après ce port, avant le port, après et tout le temps que durera le port, ce qu'il faudra prévoir pour préserver le parc marin. Donc, on y a vraiment de quoi que les développeurs vont en tenir compte. Mais maintenant, nous sommes justement à la validation de ces études-là, qui ne sont pas encore validées, on attend encore. Donc, dès que ça sera fait, vous allez voir, je connais que Jordi est très branché avec la radio Capi, donc vous ne serez pas en reste, vous serez au courant, et j'espère que moi aussi, je serai au courant.
Bien, tout le monde sera au courant.
Nous avons suivi les études de Dinga, de tout ça, on va pas cacher ça quand même.
Bien sûr. On va accueillir Maurice de Kinshasa. Bonjour, Maurice.
Bonjour.
Bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Oui, par rapport au sujet, moi, certainement, c'est aussi l'aspect de la légèreté dont nos autorités prennent les résultats des études d'impact. Comme vous le constatez, et d'autres invités les ont soulignés, les études sont en cours et les conclusions doivent être validées. Mais mon inquiétude, c'est dans cet aspect où ces grands projets vont impacter l'ensemble ou une grande zone de conservation, les parcs des mangroves, marais des mangroves, qui va être impactée. Et alors que dans les études d'impact, on va signifier quelques mesures à prendre compte pour réduire certainement les impacts. C'est pourquoi je martèle sur cet aspect que les autorités puissent mettre en place comité de pilotage pour voir à quel niveau les éléments d'atténuation des impacts inscrit dans le rapport, comment on est après d'appliquer ça sur terrain. Et aussi, faire de nécessaire déconcilier la construction de l'ouvrage avec la protection de l'environnement.
Bien, merci Maurice de Kinshasa. Professeur Serge.
Oui, bon, aujourd'hui, mais bon, ça c'est trivial, hein, parce que quand on fait un plan, évidemment, il y a le plan qui existe, il y a le plan de gestion, il y a le plan de réhabilitation, il y a toute une série de plans qu'on met en place avant de débuter un projet. Là où Maurice dit vrai, la suite, c'est le suivi. C'est-à-dire, est-ce que l'autorité environnementale va suivre? Mais le parc de mangrove, lui, a une chance, parce que l'ICCN, c'est géré par l'ICCN, hein, ce n'est pas un bien sans maître, hein. C'est-à-dire que l'ICCN ne va pas laisser les gens faire n'importe quoi sur le parc de mangrove. Il y a déjà une institution qui s'en occupe. Si moi je sais qu'on est allé soigner les lamantins, c'est sur demande de l'ICCN, n'est-ce pas?
Professeur, en passant, oui. Professeur, en passant, à part les lamantins, quelles sont les autres espèces qu'abrite ce parc marin de mangrove?
Bon, là, honnêtement, je ne suis pas éthiologue, donc je ne sais pas. Ah, ça, il faudra poser la question au professeur Bimbi, professeur, comment... Ils sont nombreux à l'Unikin là qui s'occupent de l'étude des poissons.
Bon, c'était juste pour avoir une idée de...
Il y a plein de biologistes qui s'en occupent.
D'accord. Ouais.
Moi, je me préoccupe de lamantin parce que c'est une espèce très très rare et qui ne se trouve que dans les estuaires des fleuves tropicaux.
Donc les lamantins qu'on appelle aussi les vaches de mer, c'est ça?
Voilà, exactement. Ce sont des mammifères d'une certaine morphologie assez particulière et très recherchée aussi. Et qui sont très protégés parce que ils sont aussi livrés à la chasse parce qu'ils ont une très bonne viande autrement et des huiles essentielles très importantes et leur peau est recherchée. Ce sont des espèces vraiment très menacées ces derniers temps et alors on les protège. Et dans notre estuaire, c'est vraiment un endroit où ils vivent presque en paix, donc, parce que personne ne les dérange à grande échelle.
Bien, professeur, on va terminer.
Donc, les études ont été faites.
Oui. Oh, les études ont été faites. On retient qu'il y aura quelques impacts, certainement, sur le parc de mangrove, mais il est possible d'avoir des mesures d'atténuation. Bien. Merci beaucoup.
Exactement.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, professeur Serge Pangou. Je pense qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes géographe plutôt et hydrologue. Excellente journée et à la prochaine.